les trois dernières Makot, les sauterelles, Rochech et Makat Bechorot. On va prendre d'abord quelques mots sur le tout début, là. Et ici, le... Qu'est-ce qui me fait de l'écho? C'est marqué Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro, Kani Irbadti et Libo, Vet Levavadav, Leman Chiti Ototai Ele Bekirbo. Tu vas maintenant chez Paro. Je l'ai rendu son, ils ont traduit son cœur obstiné. Idem pour celui de ses serviteurs, pour que je puisse produire mes signes au sein du peuple égyptien en réalité. Donc ça c'est la première raison. Et il y a une deuxième raison. Ouleman est aussi afin que te saper bozne vincha ou ven vincha et asher hita lalti de mitzraim. C'est aussi pour que tu racontes aux oreilles de ton fils, ton petit-fils, le fait que je me suis moqué, j'ai joué avec Paro, avec toute l'Égypte, vet ototai asher samtivam, tu puisses aussi raconter tous les signes que j'ai mis parmi les Égyptiens, vidatem, et afin que vous, le Bnei Israël, cette fois-ci, vous sachiez qu'il y a ni Hachem, que je suis Hachem. C'est-à-dire, finalement, les makot, elles servent à deux choses. Elles servent à donner une leçon aux Égyptiens, mais aussi, c'est pas marqué, on aurait pu dire, que vous sachiez aussi ce que j'ai fait. Mais là, te saper. On a ici la mitzvah de Sipour, du récit. Alors, d'ordinaire, on dit le récit de la sortie d'Égypte ici. Mais ici, on parle le man te saper beozne vincha ou ben vincha. Quoi? Le fait que je me suis moqué, j'ai joué avec l'Égypte, comme l'Égypte est devenue un jouet pour moi, et que vous racontiez aussi, au total, tous les signes que j'ai mis en Égypte, donc toutes les manifestations, mes manifestations en Égypte, et tout ça afin que vous sachiez. Et vous saurez qu'il y a ni Hachem. Le man te saper, je fais ça pour que tu racontes et que vidatem et vous saurez. Ça veut dire, à ce moment-là, vous saurez. C'est-à-dire que notre émouna, elle est construite sur la sortie d'Égypte. Notre confiance en Hachem, elle est construite sur la sortie d'Égypte. Et ensuite, sur ce qui est quand même l'aboutissement de la sortie d'Égypte, qui est Matan Torah. C'est pour ça qu'on dit dans la tfila du matin, on dit « Emet v'yatsiv ». C'est vrai, et ça tient debout en réalité. Yatsiv, Sheu, Yetziat Mitzrayim, c'est Doraita, c'est Minatora. Dans la création du monde, on n'était pas là, nous. Donc, on n'a aucune idée de comment Hachem a créé le monde. Mais Yetziat Mitzrayim, on y était. Le clan d'Israël, était là et il a vu. Alors, la émouna, elle doit être concrète, en fait. Construite sur des choses qu'on a vues. Le clan d'Israël, dans sa totalité, à ce moment-là, il a vu tout ce qu'Hachem a fait avec Mitzrayim. Il a vu tous les miracles. Donc, le man te saperbe, osne bincha ou ben bincha, t'asher et alati me Mitzrayim tototai asher samtivam, vidatem ki ani Hachem, ça ne vous saurez, yediya. Savoir, c'est un peu curieux parce que on présente notre Emouna qui est basée sur Yetziat Mitzrayim, mais Yetziat Mitzrayim, c'est un savoir, c'est pas une Emouna. Il y a un problème ici entre Emouna et Yedia. Qui est-ce qui sait? C'est le clan d'Israël, on peut dire, la génération qui était là-bas. Eux, ils savent. Mais vous allez le raconter. Et ce récit va fonder la Emouna. Les enfants, ils n'y étaient pas. Eux, ils vont avoir confiance en Hachem à partir du récit qu'on va leur faire. Donc, toi, tu vas raconter ce que tu as vu. Et eux, à partir de ce moment-là, eux, ils n'ont pas de savoir. Et eux, par la suite, ils vont raconter des choses qu'ils n'ont pas vues. Maintenant, vous allez raconter à vos enfants des choses que vous n'avez pas vues. Alors, c'est quoi cette histoire de vie d'Athem? C'est quoi ce savoir ici? C'est un peu compliqué. Plus loin. En Parshat Yitro, au chapitre 19 et au verset 4, Pasuk dit Atem reitem et asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vaessa et Trematan Fenisharim, je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Ma vie est Tremelai, et je vous ai amené à moi. Rashi dit, Atem Reitem, l'homme a soret ibi etrem. Ce n'est pas une tradition qui est venue jusqu'à vous. Velo bedvarim ani meshager lachem. Lo beidim ani meid alechem. Ça veut dire, c'est pas des paroles, c'est pas des témoins. Elle atem riitem asher asiti le Mitzrayim. La Torah, elle est basée sur des choses que nous avons vues. Le Kuzari, donc, il ramène chez Melech Kuzar, Sha'al et Achacham. Vous savez, le Kuzari, c'est le roi des Khazars qui interroge un chrétien, un musulman, un juif. Il a interrogé le juif et il lui a dit « Lama muslimi va notsri eviu raya le munatam imase bereshit » Pourquoi les musulmans et les chrétiens, ils apportent une preuve, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont apporté des preuves pour leur religion à partir de la création. Veilu achacham bises et emunato al yetsiat mitzrayim ou matan Torah. Alors que le chacham, tu fondes ton emuna sur la sortie d'Égypte et sur matan Torah. Alors le chacham répond, la religion des chrétiens et des musulmans, c'est quelque chose qui est dans la tête. Donc ils sont obligés de dire quelque chose de sikhli. Aval etzel ha-yehudim ha-emuna mouvseset al dvarim shebachush. Notre emuna, elle est basée sur des choses concrètes. C'est pour ça qu'on amène des preuves pour la Emouna, Yetziat Mitzrayim et Matan Torah. Là-bas, sur ce verset, Unkeles, il a traduit le Vavi et Tremelai. Il a traduit en araméen, il a dit Vekravit Yatron le Pulchani. Je vous ai amené à mon service, à ma Avoda. Pulchan, c'est la Avoda. À bien des endroits, quand le mot avoda est mentionné, on dit aussi vekervanu l'avodato, kiruv, kiravtanu malkenu l'avodatecha. Notre roi, tu nous as rapprochés à ton service. Vekervanu malkenu l'avodatecha. Avec Corveinu, Marien Lavalsera. Et le passé et le futur, dans la tfila de Yom Tov, on le dit au futur. On dit que rapproche-nous, c'est en présent-futur. Donc on voit que la Avoda, elle vient d'un processus, enfin, elle s'inscrit dans un processus de kirouv, de rapprochement. Lorsque l'homme est proche du Créateur, et il veut maintenir cette proximité, il le fait par le biais de la avoda. La avoda, pour nous, c'est la avoda, c'est par exemple la tfila. La avoda au Bet Hamikdash, c'était la avoda de Bet Hamikdash, mais aujourd'hui, la avoda, c'est la tfila. Chez les goyim, le Créateur, il est à la shamaim, il est très loin. Comme on dit, comme dans l'Israël, eux, ils disent que Ramal Kol Goïm, Hachem. Hachem est très élevé au-dessus des Goïm, du peuple. Al HaShamayim Kvodo. Sa gloire est au-dessus des cieux. Chez nous, Aboré Olam, Yored Elen. Pour nous, le Créateur, il descend vers nous. Il s'approche de nous pour fortifier la proximité. Et pour ça, nous devons faire la avoda. La avoda, c'est pour ça qu'il a traduit « Vavi etrem elai ». Comment est-ce que je vous amène proche de moi? Je vous ai amené à faire la avoda. Je vous ai donné une avoda à faire qui va vous permettre de rester proche de moi. Et le Ramban, sur ces mêmes versets, il dit, Vavi et Tremelai, El Makom Kvodi, dit Ramban, Aharazé, Asher Shrinati, Sham Mimachem, le lieu de ma gloire, c'est-à-dire le Sinaï. Ou bien, c'était l'épisode Sinaï, ou bien peut-être le Bet Amigdash. Donc, le Sétirgem écrivait, Yatron le Pulchani, Derer Kavod Shel Mala, Tafas Latzmo. Donc, par Kavod, C'est-à-dire, le Ramban, il dit que la kirva, elle est bien plus grande encore. Mamash, kirva nou le makom kvodo. Il nous a approchés du lieu de sa gloire, le lochou mechitsa, sans qu'il y ait absolument rien qui nous sépare de lui. Et Rachid, sur Atem Reitem, vous avez vu, un autre moment, le Rav Omer l'a expliqué, Al-Kama Averot, Ayu Chayavin Li, Kodem Shinizdavgu Lachem. Velo Nifreti Mehem, Ela Aliatchem. Comme un aigle qui porte les petits sur ses ailes pour les protéger, donc. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Rashi veut dire, le Romem est Israël pour élever le clan d'Israël. Donc, ce que j'ai fait, c'est, j'ai voulu vous élever. Comment? C'est-à-dire, niu gvoim kolkar achem betsiou al kanfen esharim. Au point qu'on puisse parler de ça ressemble d'être sur les ailes des aigles. C'est-à-dire, en fait, vous étiez. C'est à travers les Bnei Israël que les Égyptiens ont été frappés, ont été punis en quelque sorte. C'est-à-dire, quelque part, c'est comme si c'était vous qui les punissiez. Donc, je vous ai élevé quasiment presque à mon niveau. Comment? Ben, quand? Dans la punition que vous avez. Que j'envoie la punition aux Égyptiens par votre entremise. On ne peut pas entrer dans la Torah s'il n'y a pas eu une élévation spirituelle, en fait. Parce que sans cette élévation, alors, ça reste très petit. On resterait. Donc ici, on est toujours dans cette situation un peu particulière. De ce problème de la, à la fois de la Emouna et de la Yédia, le fait d'avoir vu. Le Ramban, vous avez vu, vous avez raconté à vos enfants comment je me suis moqué de l'Égypte. C'est Ita'alalti. Ramban dit qui anime sa chèque. Je joue avec l'Égypte. Shani marbid et libo, vosean kamot bo, ketam yoshem hachamam ischak, hachem ilag lamo. Il y a des psukim qui disent qu'Hachem, il rit en fait, il se moque. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas, mais le problème c'est, évidemment que c'est ridicule tout ce que nous faisons. Hachem, c'est un peu, on comprend rien à ce qui se passe. Hachem envoie une maca, et Paro supplie d'enlever la maca. Et il dit, Al-Khet, il dit, j'ai fauté. Moi, mon peuple, nous avons fauté. Moi et mon peuple, on est les Rechaïm. Nous sommes des mêmes mauvais. Alors, on enlève la maca, on enlève la plaie, il redevient un autre homme. Il ne se souvient plus de ce qu'il a dit. Et il renvoie pas les Bnei Israël. Encore une maca. Et de nouveau la même chose. Ça, c'est un jeu, en quelque sorte. C'est un jeu et au bout d'un moment, ça peut se renverser. Italalti be Mitzrayim. C'est-à-dire, pendant un certain moment, j'ai joué. J'ai fait comme si, effectivement, je te prends au sérieux. Tu dis que tu vas faire, je te prends au sérieux. Tu fais pas, on recommence. Et là, au bout d'un moment, stop, ça suffit. Paro, il se prend pour un grand bonhomme. Il dit, non, je ne renverrai pas l'Ebné Israël. Comme s'il avait le pouvoir de ne pas le faire, le pouvoir de ne pas renvoyer. C'est simplement, il est un pion. C'est un peu compliqué, la vérité, parce que la Yédia, elle était le fait de la génération qui était là-bas. Nous, on ne vit pas de la Yédia, on vit de la confiance que nous faisons quand ils nous disent qu'ils ont vu. On a transmis, la Torah nous transmet qu'eux, ils ont vu. Et nous faisons confiance à ce récit qui nous dit qu'ils ont vu. Alors finalement, c'est de la confiance. Mais l'important, c'est que ça commence par une vision. Donc, ça commence par une connaissance. Il n'y a pas d'émouna si je sais. Je n'ai pas besoin d'être ma'amine que 2 plus 2 font 4. Mais néanmoins, la Emouna, elle doit se fonder sur, c'est comme ça qu'Hachem se présente. Il ne se présente pas dans la Seret Adibrot en disant, je suis le Créateur. Il dit, je suis celui qui vous a sorti d'Égypte. Et vous savez que je vous ai sorti d'Égypte, vous étiez là. Alors, nous, la génération précédente, nous dit que eux, ils ont reçu que, etc., et on remonte. Oui, il y avait une yédia à la base. Il y avait un savoir au départ. Donc, la Emouna, elle est construite sur un savoir. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, au fond, nous, on fait confiance au récit en question. On fait confiance à le mal de sa père. Ça a été fait pour qu'on raconte. Mais Hachem dit, je l'ai fait pour que tu puisses raconter que tu l'as vu. Bon, tu vas raconter à ton enfant et ta charité à l'altime Mitzrayim. Et ça s'adresse aux gens de l'époque. Mais c'est devenu Torah, donc nous aussi on raconte. Et nous aussi on va raconter ta charita l'alti be Mitzrayim. On raconte qu'Hachem s'est moqué de l'Égypte. D'où on le sait. On le sait parce que nos ancêtres y étaient. Ils l'ont vu. Ils ont vu ce que on raconte là. Donc ça, c'est l'introduction, en quelque sorte, dans cette paracha. Et alors, effectivement, Moshe et Aaron vont aller chez Paro et ils lui disent, une drôle de chose. Ils lui disent Ko amar Hashem Elokei Ivrim. Ainsi a parlé le tétragramme Hashem, le Dieu des Hébreux. Ad matai me'alta la'anot mipanai. Shlachami v'yavdeni. V'yavduni, pardon. Jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de faire ce que je t'ai dit? Renvoie les Bnei Israël pour qu'ils me servent. Rashi, il explique, qu'est-ce que ça veut dire? Me'anta la'anot. Rashi dit, il faut entendre anot comme ayant à voir avec la aniyut, la pauvreté. C'est-à-dire, tu refuses d'être un pauvre, d'être très bas devant moi. Tu refuses la réalité que tu es rien du tout devant moi. Donc, c'est étonnant. Imaginez, on va venir et on va dire à, je sais pas, au maître de la Chine, ou à Poutine, ou à Biden, ou à Trump, je sais pas. On va venir et on va lui dire, dis-moi, tu devrais être considéré comme un pauvre, qui est un mendiant littéralement devant Hachem. Je pense que on aura toutes les sortes de rires pour bien se marrer. Mais c'était la situation de l'Égypte, c'était la situation de la Syrie, de Ashour à ce moment-là. Et on ne comprend pas ce qu'on lui veut. Un roi d'Israël, il a une mitzvah. Dans ce marqué, Levilti Rom Levavo Me'echav. Il doit faire bien attention de ne pas s'enorgueillir, de penser qu'il est quelque chose, il est plus que les autres, plus que ses frères, que les autres bénis Israël. Donc, on apprend là le issour de Gaava, l'interdit d'orgueil. Mais qu'est-ce qu'on veut de Paro? Est-ce qu'on veut que lui se considère comme un pauvre type? Pourquoi on lui dit simplement, je te donne un ordre, renvoie les Bnei Israël qui me servent. Et s'il refuse, on lui envoie la Makat Bechorot, le gamin. C'est ce que Moshe avait dit au départ. Il a tout de suite dit à Paro, si tu refuses, je tuerai Israël, c'est mon premier-né, tu refuses de renvoyer mon premier-né, je tuerai ton premier-né. Mais Hachem ne l'a pas fait tout de suite. Il fait ça à la 10e plaie. Évidemment que si on lui avait appliqué la 10e plaie tout de suite, il aurait cédé tout de suite. Qu'est-ce qu'on veut de lui? Tout ce cirque-là, toutes ces macottes-là, c'est quoi? Pour qu'il sente qu'il est un pauvre type? Ça veut bien nous faire. C'est marqué dans Brit Ben Abtarim, dans l'alliance entre les morceaux qu'Hachem a faite avec Abraham Avinu, où il lui a annoncé que ses descendants seraient esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, etc. Après, c'est marqué Vegam et Agoy, Asher Yavodou, donne Anochi. Et ce peuple qui a réduit en esclavage les Bnei Israël, je le jugerai dans un autre. Donc, ça veut dire que tout ce processus-là, de Makot, c'est un processus de jugement. Ça entre dans la Midata, c'est la Midata Din qui s'applique là. Or, le Din, le mot Din veut dire clarification. Quand on juge quelqu'un, on regarde exactement qui il est. On va le regarder sous toutes les coutures. Le Sforno dit que les neuf premières makotes ne sont pas une punition. La seule punition, c'est Makat Bechorot. Alors, c'est quoi les neuf premières? C'est une façon de montrer qui est par où. À quel niveau il est? Est-ce qu'il fait confiance? Est-ce qu'il reconnaît Hachem, etc.? Le Maharal, il est dans le Gvorat Hachem, qui est le Sefer qu'il a écrit sur la sortie d'Égypte. Le Maharal dit que les Hachamim disent chez Esser Hamakot que les dix Makot c'est un peu comme les Aseret Anishyonot chez l'Avraham. Le Maharal il compare les dix Makot appliquées à Paro, à l'Égypte, aux dix épreuves appliquées à Avraham Avinu. C'est ce que Chazal disent. Alors le Maharal, il dit, mais c'est quoi la comparaison? Il dit, a priori, on ne voit pas du tout le lien. Alors il explique que les épreuves, elles sont allées voir jusqu'où. C'est-à-dire, c'est qui vraiment Avraham? On va regarder, on va le sonder en quelque sorte. Donc, et les Makot, c'est la même chose. On va sonder Paro, exactement, pour savoir qui il est vraiment. Et c'est ça le din. Le din est mevarer la vérité de la personne. Ça clarifie la vérité de la personne. On voit dans ces parchiotes qui contiennent donc les makot, on voit comment est-ce qu'on juge un homme. On voit qu'on va jusqu'au bout, jusqu'au tréfonds de l'âme, si on peut parler comme ça. Savoir exactement dans quelle mesure il fait vraiment confiance. Quelle mesure il est vraiment Mahamid? Combien de cœur il a, si on peut parler comme ça? Et quand son cœur est impressionné, combien de temps ça dure? Vous avez vu des miracles? Ah, extraordinaire! Combien de temps tu vas te souvenir de ces miracles et tu vas agir en conséquence? Combien de fois il a dit qu'il allait renvoyer le peuple? Et quand les Makot sont partis, il n'a pas envoyé? Et pourquoi donc? Il voulait. On ne pense pas que c'était un menteur. Il voulait vraiment à ce moment-là. Mais ça n'a pas tenu la distance. Son cœur ne tenait pas la distance. Un jour, il dit « Ani ve'ami Arshaim, moi et mon peuple, on est des Rechaim. » Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, non, je n'en verrai pas. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il n'a pas de cœur, en fait. Son cœur était toujours dur, fermé. Le Ramban a dit que les makot qu'on a envoyées à Paro pour qu'il il renvoie les Bnei Israël, mais on voulait qu'il les renvoie le Shem Shamaim. Pas parce que les makot font mal. Le Ramban dit, mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? L'essentiel n'est-il pas qu'il renvoie les Bnei Israël? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Dans quel état d'esprit il est quand il renvoie? Il renvoie, c'est l'essentiel, c'est qu'il renvoie. Et pas du tout. Là, visiblement, ce n'est pas l'essentiel. Enfin, ce n'est pas ce qu'on veut maintenant ici. Akadosh Baruch Hu exige de cet idolâtre-là, le Shem Shamaim, qu'il le fasse de façon totalement désintéressée. C'est ça le din, en fait. On clarifie qui est le bonhomme jusqu'au bout. Dans la Shmoneh Esrei, dans la Tfila, on dit Tzadkeinu Bamishpat. Tzadkeinu Bamishpat. Et qu'est-ce que ça veut dire Tzadkeinu Bamishpat? C'est-à-dire, on veut que tu dises que nous sommes Tzadikim dans le Mishpat? Deux choses l'une. Où on est, où on mérite, alors on est Tzadikim, ou on ne mérite pas, on est Chayav. C'est quoi cette demande? On comprend qu'on demande à Hachem d'envoyer l'abondance, d'envoyer la... etc. Mais Tzadkeinu Bamishpat, vous allez au tribunal et vous dites je veux que vous me déclariez Tzadik. C'est quoi ça? Ça veut dire que quand on applique le din, on clarifie les choses jusqu'au bout. Et en vérité, si on allait jusqu'au bout, il ne reste plus rien. Il n'y a personne qui peut tenir devant un din pareil. Dans la Gemara, dans l'Echin, c'est marqué que si Akadosh Baruch Hu, il m'allait, bah, Akadosh Baruch Hu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Bedin, en yucholin lamod, ipne tochacha. Si Hachem appliquait le din à Avraham, Yitzhak, Yaakov, il ne tiendrait pas. Il ne pourrait pas supporter les remontrances. On va les mettre devant. Vous avez fait ça? Regardez là. Alors, c'est ça que nous demandons à Hachem. On demande à Hachem de ne pas aller jusqu'au bout. Au bout du bout, on ne tiendra jamais. Mais avec Paro, il allait jusqu'au bout. Mais comme il voulait pouvoir aller jusqu'au bout, et qu'il allait évidemment céder sous les makotes, alors on lui a donné un supplément de résistance. On est au milieu d'une opération chirurgicale. D'un coup, on s'aperçoit que le cœur, il commence à flancher un peu. On va faire ce qu'il faut pour lui redonner de l'énergie. C'est ça qui s'est passé avec Paro. Les makotes, elles l'ont écrasé. Bien sûr qu'il aurait renvoyé les Bnei Israël. Mais Min HaShamayim, on savait qu'il n'était pas sincère, que c'est parce que ça faisait mal. Ça fait trop mal, alors tant pis. Je ne veux pas les renvoyer, mais d'un autre côté, je veux que ça s'arrête. de telle sorte qu'on puisse aller jusqu'au bout du bonhomme. Ici, dans ce passouk-là, on va beaucoup plus loin que ce qu'on avait dit avant. Bon, on lui a dit, avant, on lui avait dit de renvoyer les Bnei Israël. Et là, on fait le reproche, Ad Matai, jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de t'écraser devant Hachem? Cette fois-ci, tout à coup, on ne veut pas seulement qu'il renvoie concrètement les Bnei Israël. Alors, évidemment que si c'est quelque chose qu'on demande à Paro, c'est un idolâtre. Alors qu'est-ce qu'on nous demande à nous? On demande de pas s'enorgueillir. Ce qu'on lui dit, tu t'enorgueillis parce que t'es roi, alors tu crois quelque chose. Alors, les chachamim qui sont considérés man malchei rabbanan, c'est-à-dire, on parle de la royauté, les rois c'est les rabbanan, les talmid les chachamim. Donc, un talmid chacham qui et comme un roi, de ce point de vue-là, le travail sur la gaava, sur l'orgueil, c'est pas un travail pour des très jeunes gens. Parce que pour un très jeune, on a besoin d'un petit peu de gaava pour avancer, quoi. Mais c'est mauvais. Donc à terme, il va falloir travailler pour éliminer cette gaava. Je raconte qu'un jour, il y a un père qui est venu discuter avec Ablé Prasman, qui était le Mashgiach de la Yeshiva de Hebron. Et il a dit à son père, il a dit, écoute, ton fils, ici, il a vraiment progressé. Quand il est arrivé ici, il se prenait pour le Ramban. Maintenant, il se prend pour le Rajbo, un Talmid de Ramban. Alors, Paro, on lui dit tout ça, et lui, il est encore, il a encore des restes. Hein. Il me dit que les sauterelles, elles vont manger tout ce qui reste. Il n'y aura plus rien du tout. Alors, c'est marqué que les Havdé Paro lui ont dit, mais jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir supporter ce fléau de ces Bnei Israël avec ses, ça entraîne toutes les plaies. Renvoie ces gens-là, qu'ils aillent servir leur Dieu. Est-ce que tu n'as pas compris encore que l'Égypte est fichue? Alors, on a ramené Moshe et Aaron au palais, à Paro. Et alors, lui, maintenant, il leur dit, le coup, allez-y, servez Hachem votre Dieu. Mais qui va y aller? Miva Mia Olchim, qui va là-bas? Alors Moshe lui dit, on y va, les jeunes, les vieux, tout le monde, nos fils, nos filles, avec nos troupeaux de petits, de gros bétail. C'est une fête pour Hachem. Alors Paro leur dit, mais il dit, ok, Hachem soit avec vous, je vais vous renvoyer, vous et vos enfants. Mais en fait, et vous faites Reu Kira Neged Nechem. Regardez le mal qui est en face de vous. Ne faites pas ça. Le Khuna Agvarim, allez-y uniquement les hommes. Servez Hachem, parce que c'est ça que vous voulez faire. Seulement les hommes. Et il les a chassés. Alors, il leur dit quelque chose, il leur dit, vous voyez, le Ra'a Neged Pnechem. Regardez, le mal vous fait face. Onkelos, Rashi, Rambam, ils traduisent. Le mal que vous avez l'intention de faire va se retourner contre vous. Je vois bien que tu dises que vous voulez partir pour 3 jours, vous voulez partir et ne pas revenir. Sinon, vous n'avez aucune raison de prendre vos enfants avec vous. Et votre mauvaise intention va se retourner contre vous. Elle révèle votre traîtrise. Alors, le Midrash dit que Ra'a, Shainé, c'est un astre, c'est une planète. Donc, c'est une espèce de planète rouge. Et cette planète, elle annonce que les Bnei Israël qui veulent aller dans le désert là-bas, bon, ça va tourner mal pour eux. Le rouge, c'est le rouge sang. Et en fait, mon cher Abelou qui fait feu de toute pièce, en fait, il utilise tous les arguments quand il faut défendre les Bnei Israël. Quand les Bnei Israël ont fait le Hegel, alors Hachem avait dit qu'il voulait détruire le clan d'Israël. Alors mon cher Abelou lui a dit, écoute, si tu détruis ton peuple, ben, les Égyptiens diront, ben, les astrologues, ils avaient parfaitement raison. Hein. Ils avaient prédit la fin tragique des Bnei Israël. Ils vont dire, Bera, Otsiam. Il les a fait sortir d'Égypte, mais c'était sous l'influence de cet astre, malfaisant. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans la Torah, on ne dit pas, ouais, les astrologues, ils disent n'importe quoi. Le Midrash va dire qu'il y avait vraiment un problème de sang. Mais c'est le sang, c'est un sang de Mila. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un sang de mort. C'est un sang de vie. La goutte de sang qu'on fait couler à la Mila, c'est pas du tout que c'est pas le sang de la mort, c'est un sang de vie. C'est marqué dans Yechezkel et on le dit au moment de la Mila, Vedamaïch Chayi. Tu vis grâce à ce sang. La Mila, c'est ce qui nous permet de vivre. Ça veut dire, il y avait du sang. Donc, la Torah, elle présente les choses. Les astrologues, ils voient, mais ils ne voient pas bien. Ils ne voient pas clairement. D'ailleurs, ils l'avaient dit. Ils ont dit, quand ils ont annoncé que le libérateur des Israël allait naître, ils disaient, on ne voit pas très bien si c'est un Égyptien ou un Hébreu, ce qui était la situation de Moshe Rabbeinu. Moshe était prince héritier d'Égypte et puis c'était un juif, en fait. Donc, eux, ils ne comprenaient pas, ils ont pensé, on ne voit pas si c'est un Égyptien ou un juif, ou un Hébreu. Mais il y avait une ambiguïté. Il était un Égyptien et un juif. Parce qu'il était prince héritier de Paro. Alors, ils n'arrivent pas toujours à interpréter les choses. Mais ils ne sont pas présentés comme disant n'importe quoi. De quel Mila ? Il s'agit de les Bnei Israël, quand ils vont entrer en Eretz Israël, sous la direction de Yoshua, ils vont faire la Mila. Ils ne pouvaient pas faire la Mila dans le désert, pour les enfants qui étaient nés dans le désert. Alors, ils ont attendu d'arriver en Eretz Israël. À ce moment-là, ils ont fait la Mila. Quand ils ont passé le Yarden, ils sont entrés sur le territoire d'Israël. À ce moment-là, Yoshua leur a fait faire la Mila. Donc, il y avait bien du sang. Mais un sang de vie et pas un sang de mort. On peut l'entendre comme ça. C'est-à-dire, on peut aussi entendre que la Mila, elle a été donnée pour transformer le sang de mort en un sang de vie. Dans les situations où effectivement le sang pourrait être un sang de mort, la Torah nous a donné la mitzvah de Mila qui va permettre de transformer ce sang d'un sang de mort, un sang de vie. Bon, alors, Hachem va donner l'ordre à Moshe Rabbeinu de faire ce qu'il faut pour que les sauterelles arrivent et qu'elles détruisent tout sur leur passage. Il ne reste plus rien de tout ce qui avait échappé à la grêle, à toutes ces choses-là. Tout ça est complètement détruit maintenant, tout mangé par les sauterelles. Bon, on sait bien les essaims de sauterelles, en Égypte, ça existe encore. Il y en a eu il n'y a pas si longtemps. Mais ça n'a jamais eu l'ampleur de Ça a eu ici un avocat. Le rouge, c'est toujours un problème. Le rouge, c'est Essav, c'est le sang, et c'est le sang versé par Essav, Al-Kharb Khatifié, etc. Quand Shmuel avait reçu l'ordre d'aller oindre un fils d'Ishaï à la place de Shaoul, qui avait démérité, quand il a vu David, qui était roux, il a dit, mais c'est Esav. Shmuel a un avis. Alors il sait, quand il a vu que, Hachem l'a dit, il a de beaux yeux. Et les yeux, c'est Ene Haeda. C'est Sanhedrin, c'est-à-dire c'est la halakha. Ça veut dire, c'est vrai que il est un guerrier, etc., mais il va faire les choses exactement selon la halakha. Mais il a la puissance nécessaire à un roi. Il va s'imposer comme roi, dans la mesure du possible. Pas comme Shaoul qui était un tzaddik, mais qui s'est laissé déborder en quelque sorte par le peuple. Au lieu de tout détruire d'Amalek, il dit, oui, mais le peuple, tu es le roi ou tu n'es pas le roi? Donc, il envoie les sauterelles. Ensuite, il y a la Maka Trochère, la Maka des ténèbres. C'était absolument terrible. C'est pas simplement que... C'est pas une panne de courant. Hein. Les gens étaient plutôt dans la position telle qu'on l'a décrit, les gens de Pompéi, qui ont été figés dans l'état où ils étaient. Avec le bras levé, il ne pouvait plus baisser son bras. Et on dit que pendant ce temps-là, pendant cette époque, ces 3 jours de ténèbres, les fameux 4/5e, là, qui ne voulaient pas sortir, sont morts et ont disparu. S'il était resté les cadavres des 4/5e, Paro aurait dit, ben, c'est pas un très bon résultat, hein, pour Hachem. Hachem propose la sortie d'Égypte et il y en a que 20% qui sont pour. 80% disent non. En vérité, j'ai jamais vraiment bien compris comment les Égyptiens n'ont pas remarqué qu'il manquait 80% du peuple. Il manque 80% du peuple. Ça passe pas inaperçu, quand même. Et ils ne les voyaient pas, mais ils ont quand même juste posé des questions, seulement. Bon. Bon. Et puis tout ça, ça sert à rien. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il avait donc dit que, voilà, j'ai encore, il lui dit, j'ai encore une chose à faire. Encore une plaie. Au début du chapitre 11, Hachem dit, j'ai encore une plaie. que je vais amener à Paro et à l'Égypte. Après, il va vous renvoyer. Complètement. Garesh qui est Garesh est très misé. Il va vous chasser d'ici. Alors, Hachem annonce, j'ai encore une plaie, et au lieu de dire de quelle plaie il s'agit, il tient un autre discours. Il part, il dit, Daberna beosneam, parle s'il te plaît aux oreilles du peuple. Vishalou, ish metreu, vishametruta, klechesef vechlezaab. S'il te plaît, parle d'Israël et qu'ils empruntent un homme à son voisin, une femme à sa voisine. Enfin, excusez-moi, je traduis voisine, mais le mot qui est utilisé, c'est réa. Réou, réouta. Le mot réa, vous le connaissez, c'est le mot qui figure dans Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras, on traduit réacha, ton prochain. Eux, par exemple, dans le stone, là, ils ont traduit ami. Chacun demande à son ami et chaque femme à son ami eux. Le réa, c'est pas seulement un ami. Vous voyez, quand on traduit par prochain. L'accent, il n'est pas. Prochain, c'est un autre juif, quoi. A priori. Et Hachem a fait en sorte que le peuple était bien vu par les Égyptiens et Moshe était considéré comme un grand bonhomme par tout le monde, sauf par Paro, évidemment. Peut-être qu'il le pensait aussi que c'était un grand bonhomme, mais en tout cas, il... Donc, c'est une espèce de parenthèse. Après avoir annoncé qu'il y a encore une Maka, qui va être maintenant décrite. Vayomer, Moshe, Ko Amar Hashem, Karatzot Alayla, Hashem lui avait déjà dit avant, Hashem dit, à peu près à minuit, Ani Yotse Betoch Mitzrayim, je sortirai dans le pays d'Égypte, ou Met Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim. Et l'impression, c'est Hachem va seulement sortir en Égypte et les premiers-nés vont mourir. Et tous les premiers-nés dans le monde, chez les humains, chez les animaux, et chez les humains, toute la chaîne, depuis le prince héritier jusqu'au Bechor de la Chifra qui tourne la meule. Il y aura un grand cri, une grande clameur dans tout le pays d'Égypte. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Chez les bénis d'Israël, il ne se passera rien du tout. Même les chiens cesseront d'aboyer. Et Viardou, Cholavadecha, Eleelai, et tous tes serviteurs, dit-il à Paro, ils vont descendre vers moi, ils vont se prosterner à moi, et ils vont me dire, s'il te plaît, pars, toi et tout le peuple. Et après cela, je sortirai. Et avec ça, il est sorti de chez Paro, mais il était furax. Alors Hachem lui a dit, Paro ne vous écoutera pas. Pour que je puisse encore multiplier mes miracles, et on dit, hey, Moshe, Aaron, on fait tout ce qu'Hachem, tous les miracles qu'Hachem leur avait ordonné de faire devant Paro, mais Hachem a toujours renforcé le cœur de Paro, et il n'a pas envoyé les Bnei Israël, renvoyé les Bnei Israël d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là d'emprunter là, les Kélim? D'abord, ça commence de façon étrange. Vous voyez la situation? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Daber na, parle, s'il te plaît, au Bnei Israël. Daber, c'est un ordre, mais comment c'est? S'il te plaît, je t'en prie, c'est quoi ça? Hachem qui me demande, s'il te plaît? Hazal dit qu'il y a une autre situation où Hachem a demandé « s'il te plaît ». Quand il a demandé à Abraham Avinu de réussir la 10e épreuve, il a dit « s'il te plaît, réussis cette 10e, sinon les gens diront que les 9 n'avaient aucune valeur ». Mais ici, c'est marqué dans le texte « s'il te plaît ». Hachem demande un service à Moshe Rabbeinu. Son service, c'est de demander un service au Bnei Israël. Et c'est quoi? Emprunter des kélim d'or et d'argent. Alors là, j'avoue complètement que je comprends vraiment pas ce qui se passe. Parce que emprunter des kélim d'or et d'argent, chez qui il y a des, qui est-ce qui avait des kélim d'or et d'argent? Le peuple égyptien, peu vraisemblable qu'ils aient eu des kélims d'or et d'argent. Peut-être les nobles et les gens qui sont tout proches de Paro, mais est-ce que c'est les Bnei Israël avaient, on va demander à tout juif, et tout, ils avaient tous des nobles et des gens à portée de main là, auxquels on peut aller demander. Je n'arrive pas du tout à comprendre qui avait cet or et cet argent pour qu'on puisse le demander. Ça, c'est concrètement, je n'arrive pas. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem demande un service, là? Alors, vous savez bien pourquoi Hachem le demande. Quand Hachem a dit à Abraham Avinu que dans Brit Ben Abtarim, que ses descendants seraient esclaves en Égypte. Il a dit qu'après cet esclavage, il sortirait d'Égypte, Birchush Gadol, avec un grand butin. Il n'y a pas de butin. On n'est pas parti pour partir avec du butin, hein, Yves. On va être chassé par Paro. On va prendre ce qu'on a, on est des esclaves. C'est vrai qu'ils avaient des troupeaux, etc., à Goshen. C'est sûr que la condition des esclaves hébreux était un peu compliquée à comprendre. C'était des esclaves, mais d'un autre côté, ils avaient des troupeaux, etc. Alors, on a un peu de mal à comprendre exactement. Ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on se représente, en quelque sorte. Mais bon, ils n'avaient quand même pas tellement... Alors, il n'y a pas de butin. Oui, il y a un butin. Un butin, c'est refouche. Bon, ben, refouche, c'est éventuellement. Quand on fait la guerre, il y a un refouche. Mais... Et pourquoi est-ce qu'il demande ça? C'est parce que, il dit, le Midrash explique qu'Abraham Avinu, il ne sera pas content et il va dire. Ok, la première partie, vous serez esclave. Quand je vois qu'il a fait ce qu'il fallait pour qu'on le soit, et voilà, on a souffert. Mais la deuxième partie, la promesse de Rouj Gadol, rien du tout. Et donc, pour éviter cela, Akadosh Baruch Hu passe par les Bnei Israël. Il pouvait pas faire pleuvoir un peu d'or. Ça entre pas dans la. Il a fait des miracles tellement énormes que, bon, s'il y avait un peu dans les grêlons, il y avait un peu d'or, d'argent, pourquoi pas. Non, pas du tout. Il faut demander. Il fait, c'est curieux. Il demande au Bnei Israël de faire en sorte qu'il puisse leur donner, lui, un butin. Comment il va leur donner? Ils vont emprunter, alors. Quand on emprunte, il faut rendre, non? Inch'Allah, c'est un emprunt. Effectivement, ils vont emprunter. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir après. Ils ne vont pas revenir. Donc, quoi, c'est quoi le butin? C'est du vol? On a emprunté, on ne l'a pas rendu. C'est quand même une drôle de façon de... Dans le butin, on prend aux gens qui ont perdu la guerre. Alors là, on prend à des gens qui l'ont donné, et ce n'est pas des gens qui ont perdu la guerre. C'est Paro qui a perdu la guerre, mais le peuple. Parce qu'il a perdu la guerre, lui. Il donne volontiers. Hachem a fait en sorte qu'ils ont... Bien sûr, si vous voulez, on va vous donner. On ne va pas vous donner, on va vous prêter. Comme vous l'avez demandé. Et donc, on va se retrouver avec de l'or. Et pourquoi on a besoin d'or? On va être nourri, logé dans le désert. On a besoin de l'or. Bon, ils vont acheter du vin, d'accord. Il faut de l'or et de l'argent pour acheter du vin. Ils vont acheter du vin parce qu'il y a la xéra de Stam Yelam, elle n'existe pas encore à ce moment-là. Donc ils vont acheter du vin au goyim. Je vois très bien les goyim qui se baladent dans le désert avec du vin. Mais bon, on achètera du vin chez eux. Non, on va utiliser l'or pour construire le Mishkan. Je continue ce que je suis en train de dire là. On va construire le Mishkan avec de l'or et de l'argent qu'on a volé aux Égyptiens. C'est ça. C'est un peu compliqué, non? Et en plus, à la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, il y a le passage de la mer. Et les Égyptiens, ils vont poursuivre les Bnei Israël. Ils vont faire la guerre contre les Bnei Israël. Et là, pour le coup, ils vont prendre toute leur légende, donc les guerriers de Paro, la garde rapprochée, l'armée, tous ces gens-là, ils vont amener, c'était l'habitude quand on allait faire la guerre, ils amenaient leurs trésors avec eux, sur les chars, etc. Même au Moyen-Âge, c'était aussi comme ça. Et donc, là, du coup, ils vont perdre la guerre. Et les Bnei Israël, ils vont ramasser un butin dans la mer. Et là, c'est marqué que le butin à la mer, il était bien plus grand que l'or et l'argent qu'on a eu à la sortie d'Égypte. C'est là-bas, par exemple, que Korach était le meilleur ramasseur d'or. C'est là-bas que Korach a tellement ramassé qu'il est devenu beaucoup plus riche que tout le monde. C'est de cet épisode-là qu'il a eu sa richesse, Korach. Bon, alors, on n'a pas besoin d'emprunter, on va en avoir. Non, mais ça ne marche pas parce que la promesse, c'était qu'au moment où ils vont sortir d'Égypte, ils vont avoir le butin, et pas une semaine après. Donc, pour qu'ils aient le butin, alors là, cette situation, je ne sais pas comment il faut la décrire, mais c'est Hachem demande, s'il vous plaît, empruntez, et ça sera votre butin. Alors, sur l'histoire du vol, on peut un peu arranger les choses, comprendre un peu mieux les choses. C'est que la Gemara, elle rapporte, au temps d'Alexandre, qui avait conquis le monde connu à ce moment-là, les Égyptiens sont venus chez Alexandre et ils ont dit « Nous demandons la saisie des terres d'Israël. » Parce que les Bnei Israël nous ont emprunté de l'or, de l'argent, etc. Ils n'ont jamais rendu. Et donc, c'est un montant tel qu'ils ne peuvent pas nous le donner maintenant. Et donc, on voudrait que tu saisisses, enfin, que tu décides, toi qui es tout puissant, tu décides que la terre d'Israël nous appartient, à nous, Égyptiens. Et la Gemara dit que Alexandre a convoqué les Chachmé Israël, il leur a dit, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là? Alors, ils ont dit, donne-nous 3 jours. Et alors, il se passe quelque chose de très étrange. Il y a un jeune rabbin, un jeune Talmid Chacham, qui dit au Chachamim, voilà, je propose la chose suivante. Je vais aller, moi, répondre aux Égyptiens devant Alexandre. Si mes arguments sont gagnants, et les Matov Manaim, très bien. Et si mes arguments ne sont pas gagnants, vous pourrez toujours dire, oh, c'est un petit jeune là qui s'est bombardé tout seul représentant, etc. Et vous direz, vous, ce que vous pensez devoir dire, ce serait mieux que ce que j'aurais dit. Et les Chachamim ont accepté. Et voilà, le voilà parti là-bas, il arrive chez Alexandre, et il demande aux Égyptiens, sur quoi vous vous basez pour nous réclamer cette fortune-là? Ils disent, nous, on se base sur la Torah. Ah, bon, alors je vais aussi me baser sur la Torah. Et il leur sort. On était en exil 400 ans en Égypte. On était 600 000. Il y a eu le travail de 600 000 personnes pendant 400 ans. À la louche, ça fait beaucoup plus que ce que les Égyptiens réclamaient. Et il a gagné. Et donc, Alexandre les a déboutés, terminés. Il a gagné. Donc, il y a un psak din d'Alexandre qui dit que lui, il a en quelque sorte validé l'or et l'argent que les Bnei Israël ont pris en paiement de leur travail quand ils étaient esclaves. Ce n'est pas très clair parce que quand on est esclave, on n'est pas obligatoirement payé. Et alors maintenant, on peut dire quand même que ce n'était pas pour le travail seulement, mais comme les Égyptiens ont. Pourquoi est-ce qu'ils sont punis, les Égyptiens? Ils avaient le droit de réduire les Bnei Israël en esclavage. Oui, mais ils n'avaient pas le droit de les torturer. Or, le travail qu'on leur faisait faire, c'était un travail de camp de concentration, ou pire. Pourquoi on leur envoie les bêtes sauvages? Parce qu'ils ont décidé que les Bnei Israël devaient, dans leur travail, être bergers de bêtes sauvages. Ok, vous supprimez la différence entre les béhémotes et les chayotes, les bêtes sauvages. Ok, alors vous allez avoir dans vos maisons, au lieu pas seulement du bétail, mais vous allez avoir des bêtes sauvages. C'est toujours mida k'neged mida. Donc pour ça, probablement, ça, ce genre de travaux, qui était l'essentiel des travaux, parce que comme vous savez, il y avait la version égyptienne de Sisyphe, quoi. Les Bnei Israël devaient construire la fameuse ville de Pithom Ramsès. Dans la Torah, c'est écrit comme s'il y avait 2 villes, mais en fait, très additionnel avec une seule. Et qu'en fait, il la construisait d'un côté et elle se détruisait de l'autre en même temps. Donc, c'était un travail simplement, purement et simplement abêtissant et abrutissant. Ne n'ai aucune satisfaction. C'est pour casser les gens. Pour ce genre de travaux-là, ça se paye. Bon. Alors, d'abord, c'est un espèce de jugement d'après-coup, hein. Si les Égyptiens quand les Égyptiens réclament, c'est des siècles après. sur le temps d'Alexandre. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, c'est un peu avant Hanouka. C'est un tchèque Knesset Agdola. Il y a les derniers Neviim, les derniers prophètes, il y a Mordechai, il y a Shimon HaTzadik, dans ces un tchèque Knesset Agdola, à cette époque-là. Donc c'est beaucoup plus tard. Mais on avait déjà construit depuis pas mal de temps, non seulement le Mishkan, mais aussi les Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer, mais finalement, le plus grand problème, me semble-t-il, c'est cette demande où Hachem demande, s'il te plaît, parle-leur. Comme si Hachem, il n'a pas tel... Voilà, je veux que ça passe comme ça, mais ça fait apparaître une espèce, comme une faiblesse d'Hachem, Chas v'Shalom. Mais quand on y réfléchit bien, ce problème de la faiblesse, c'est un problème de faiblesse divine, d'une certaine manière, plutôt de la fragilisation plutôt que la faiblesse. La fragilisation, c'est quelque chose qui est là depuis le début. Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel il veut être reconnu comme Melech. Mais le Melech, il n'est Melech que s'il est accepté par les sujets, sinon il est Moshel. Donc il dépend des sujets. Donc quand Hachem a créé le monde, il s'est en quelque sorte fragilisé puisque il s'expose. Supposez que les Bnei Israël disent non, on ne te reconnaît pas comme Melech. Il y a aujourd'hui beaucoup de juifs qui, je ne sais pas si au fond d'eux-mêmes c'est ça qu'ils pensent, mais en tout cas qui tiennent ce genre de discours. On ne reconnaît pas Hachem comme Melech. Donc il est fragilisé, ça veut dire il a créé un monde, et puis ils disent non. Donc de vouloir être Melech, c'est se fragiliser. Moshel, je suis le patron, je fais ce que je veux. Mais Melech. Alors ici aussi, je me suis engagé. Et puis pour une raison que je ne comprends pas, Hachem ne veut pas faire de miracle, il y avait suffisamment de plomb qu'on aurait pu changer en or, non, c'est pas, Hachem aurait pu changer le plomb en or là, à ce moment-là. Non, il faut l'emprunter. Alors, c'est surtout des questions, je ne sais pas répondre. De même que, en fait, il y a une super question. C'est la fameuse question du Gaon de Vilna sur cette sugya. Le Gaon, il dit jamais dans la Torah, le mot réa veut dire inclut un goy. Or, ici, il s'agit d'emprunter auprès des goyim, non? Et ils sont présentés comme réacha. Le Gaon dit, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être un goy. Donc, ils vont emprunter chez les juifs. Alors là, c'est encore un peu plus compliqué. D'où est-ce qu'ils ont pleuré de l'argent? Et qu'est-ce que ça change? En quoi ça va devenir un butin? Je ne sais pas, j'ai jamais vu la réponse. Il va y avoir une réponse quelque part, Pshat du Gaon là-dessus. Je n'ai pas vu. Je veux juste dire rapidement. Moi, je me suis raconté une histoire pour essayer de comprendre ce que dit le Gaon. Et vous la racontez aussi, vous le ferez ensuite. Je me suis dit qu'effectivement, et comme c'est marqué ici, on va emprunter. Qui va emprunter? Les Juifs vont emprunter. Mais on nous dit ici qu'ils vont emprunter auprès des autres, d'autres Juifs. Parce que Réa, ça ne peut pas être un goy. Donc ils vont emprunter auprès des Juifs. Alors, je me suis demandé, c'est quoi cette histoire? Le problème, c'est, à mon avis, et on peut essayer d'expliquer comme ça. Les Bnei Israël, quand ils sont en Égypte, ils ne sont pas un peuple. C'est une multitude de gens. C'est une foule. C'est pas un peuple. Tout le monde sait que les Bnei Israël ne seront un peuple qu'au pied du Sinaï. Quand les Bnei Israël sortent de Mitzrayim, et qu'ils ont quelques étapes jusqu'au Sinaï, et dans ces étapes, on parle du campement des Bnei Israël qui s'installe, et là-bas, c'est toujours marqué, ils ont campé. Ils ont campé, on parle au pluriel, c'est-à-dire cette masse de gens ont campé, sauf au pied du Sinaï. Au pied du Sinaï, c'est marqué, il a campé. Et on dit, il a campé, c'est le peuple juif a campé. Enfin, je dis le peuple juif, c'est le peuple a campé. Donc, ils sont devenus un peuple au pied du Sinaï. Bon, ils sont devenus un peuple parce que la Torah, elle a été donnée au peuple, elle n'a pas été donnée à des individus. Donc, si je remonte, à la sortie d'Égypte, ils ne sont pas encore un peuple. À plus forte raison, en Égypte, ils n'étaient pas un peuple. Quand les gens en sont à chercher un souffle pour survivre, ils n'ont pas de relation avec les autres. Chacun est en train d'essayer de survivre. Bien sûr qu'il y a les exceptions. Bien sûr que dans les camps de concentration, il y a eu quelques exceptions. Mais la règle, c'était malheureusement que si quelqu'un n'avait pas de couverture, ben, il volait la couverture. S'il pouvait, il volait la couverture de l'autre. Ce qui était quasiment une condamnation à mort. Les gens, ils pouvaient voler un morceau de pain, etc. On volait. Bon, Hachem, il y avait, disons, entre les Bnei Israël, il y a eu certains cas, effectivement, de grande générosité et tout, mais globalement, les gens, quand ils sont en train d'essayer de survivre, ils n'ont en général pas la force de penser aux autres. Et donc, les Bnei Israël, en Égypte, ils avaient le souffle court, c'est pour ça qu'ils n'entendaient pas Moshe. Et donc, chacun était replié sur soi-même. Or, ça veut dire qu'il n'y a aucun début, il n'y a rien qui pourrait aider à fabriquer un peuple. C'est quoi un peuple? Ce sont des gens qui ont un certain type de relation entre eux. Eh bien, ce que j'ai compris, enfin, l'idée d'emprunter, c'est fabriquer des relations. Emprunter, c'est fabriquer des relations avec les autres, un peu artificiellement. Peut-être beaucoup artificiellement. On va fabriquer des relations. Et tout à coup, dans cette fabrication de relations, qui est tout à coup, des liens se créent donc. Il y a une espèce de tissage de relations qui est encore très, très lâche, très faible, mais qui va permettre de progressivement arriver à faire en sorte que ces relations soient plus serrées, en quelque sorte. N'est-ce pas? Quand on a accepté la Torah, on a accepté la responsabilité pour les autres. D'accord? Le fait que vous puissiez faire kiddush les uns pour les autres, c'est construit sur la notion d'un avou, de co-responsabilité. S'il n'y avait pas cette co-responsabilité, vous ne voyez pas, ma pitom, pourquoi est-ce que moi je fais kiddush et c'est bon pour lui, ma pitom. Et donc ce sont des relations très fortes. Et on est même responsable de la responsabilité de l'autre, explique Tosfot. Et donc, ce que je pense, c'est que ces relations-là, qui commencent par j'emprunte et je rends, et ça crée quelque part un embryon de société agréable. J'emprunte, je rends, ça voilà. D'un coup, on voit l'autre, on le connaît, etc. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, le peuple égyptien qui s'est rendu compte qu'il y avait cette société qui commençait à devenir une société agréable, ils ont eux aussi voulu en être. Et pour en être, ils ont fait la même chose. Et donc, ils ont commencé à avoir des relations, ils ont prêté les choses. Pour se faire accepter dans le... Alors, ça ne résout pas le problème de où est-ce qu'ils avaient de l'or et de l'argent. Et on peut imaginer que ça s'est diffusé et que, puisqu'on nous dit qu'ils ont vraiment... C'est le pasouk est très chaleureux. Il dit, les goïm, les d'Israël ont trouvé grâce, chayn, c'est la grâce. Ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Et Moshe Rabbeinu, c'était un grand bonhomme. Les Égyptiens ont bien compris que leur tsarot ne venait pas de Moshe et de Bnei Israël, les tsarot venaient de Paro. Les magiciens lui avaient dit, et les autres lui disent à ce moment-là ici aussi, mais renvoie-les, tu nous fais souffrir pour rien du tout. Et donc là, la création de ces relations-là, c'est ça qui s'est passé. Donc effectivement, Akadosh Baruch Hu a dit aux Bnei Israël, empruntez les uns des autres, de Réa, effectivement, dans ton prochain. Parce que ça fait partie du grand dessein d'Hachem de fabriquer un peuple. Il faut bien le fabriquer, ce peuple juif, si on veut lui donner la Torah. Et il n'existe pas. Vous voyez bien, quand il sort d'Égypte, c'est des individus qui campent. Ce n'est pas un peuple qui campe. Donc ça, il me semble que je peux lire dans ce que dit le Gaon, que les emprunts, c'est une emprunt entre juifs, que c'est la volonté d'Hachem de faire en sorte qu'il y ait des relations qui se fassent. Et je pense que le fameux butin, c'est ça le butin. L'or, l'argent, c'est une façon de parler. De l'or et de l'argent, ils en auront. Alors, il y a eu des Égyptiens qui ont prêté les choses et les Israéliens n'ont pas rendu, etc. On peut le lire comme ça. Et en vérité, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune Rav, quand il est allé dire, moi aussi, je vais m'appuyer sur la Torah. Il allait s'appuyer sur quoi? Pas du tout. Il leur a dit, vous vous appuyez sur le texte de la Torah sans la Torah chez Baal Peh. Alors moi aussi, je vais prendre la Torah. Il savait très bien qu'on n'est jamais resté 400 ans en Égypte. On est resté redou, 210 ans. On n'a jamais été, durant toutes les années, 600 000. On était 600 000 à la fin, quand il y a eu l'explosion démographique. Mais c'était pas tout le temps. On n'était pas 600 000 tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les textes, il a pris les psukim qui parlaient de, etc., d'images, etc. Et puis là, il ne s'est pas occupé de ça. Il s'est marqué une fois que le ministre était 600 000, ok, il leur a collé 600 000. Si tu tiens, tu tiens pas, ils ne tenaient pas compte de la Torah chez Balpé. Ok, alors, c'est ce qu'il leur a dit. C'est-à-dire, lui, il a compris que ces gens-là, ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur le texte, ils ne connaissent rien d'autre. Et donc, on va les prendre au piège comme ça. Et donc, c'était très important, et c'est ça, à mon avis, le grand butin. L'or et l'argent, ils l'auront au passage de la mer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas construit le Beth Amikdash avec des choses demandées qu'on n'a pas rendues. Éventuellement, les Égyptiens ont peut-être donné des choses et qu'on a accepté. Ça, c'est possible. Mais c'est pas ça. Le grand butin, l'extraordinaire, c'est que vous allez devenir un peuple. Je vais fabriquer. Quand ils vont sortir de là, de ce creuset égyptien, ils seront un peuple. Comment ils vont être un peuple? C'est des individus, ils ont rien en commun. Les valeurs d'Abraham, ils les avaient complètement oubliées, dit Rambam, à part la tribu de Lévi. Donc, il n'y avait rien, il n'y avait pas de Milut Rassadim, il n'y avait pas. Je crois que c'est comme ça que j'ai essayé de m'expliquer le Gaon, parce que je ne sais pas ce que le Gaon dit de la réalité, c'était quoi le. Il a expliqué que Réa, ça ne peut pas être des goïms. C'est vrai qu'il est tout seul, hein. Tous les autres Mefarshim, ils ne sont pas dérangés par le fait que le mot Réacha, là, tout à coup. Mais une fois que ça a été dit qu'il n'y a pas de mot Réacha dans la Torah qui parle d'un goï, on ne peut plus lire. Ouais. Voilà. Ouais. Vous faites ce que vous voulez avec ça, mais. Vous avez, si vous n'écoutez pas le Gaon, vous avez beaucoup de Mefarshim sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je ne voulais pas m'appuyer sur. Voilà.
Et bon Shabbat.